Cet endroit est particulièrement intéressant. Je vous renvoie au commentaire de saint Thomas. Physique. Donc, livre 4, leçon 18. Numéro. Double numéro de à la fois 412 et dans le commentaire de saint Thomas c'est le numéro 593. 12 c'est le texte latin, la traduction latine. Vous allez voir quelque chose de curieux. Donc vous voyez bien le texte grec, c'est le point de vue. On essaie de comprendre ce que c'est que le tonun, le temps pris tout d'une pièce en entier est le même, car l'instant est le même dans son sujet, mais dans son essence, il est autre. Donc, le temps au chronos, amma passe, donc pris dans son ensemble, est le même. Est le même au pot n. Traduction latine. Quodotem simul omni tempus idem est. Donc le temps simul omni tempus, c'est assez juste comme traduction. Ipsum enim, donc car ipsum nunc idem est. Et le même, secundum quod quid est. Esse autem ipsi alterum est. Vous voyez, c'est le pot. Le pot N. Alors ajoutez tout de suite N. C'est ça qui fait et qui est traduit le ipsum. Nun idem est, secundum quod quid est. C'est très curieux. Je ne sais pas si le pote c'est quod quid est. C'est ce qu'il est. Quod quid est. Tandis que le toinai, l'essai, autem ipsi alterum est. Alors voyez la traduction de saint Thomas. Commentaire de saint Thomas. Expliquer que le temps pris dans son ensemble est le même. Illud quod simul existit de totu tempore sidem. Scilicet ipsum nunc. Quod quidem secundum id quod est, idem est. Donc, selon cela qu'il est, il est le même. Sed ratione est altero. Secundum quod est prius et posterius. C'est très curieux. Parce que saint Thomas inverse les C, point de vue de rationné. Ça, il y a un petit problème là. Je ne veux pas le traiter avec vous parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais c'est intéressant à souligner. Je reprends pour que vous voyez bien. Donc, c'est le nunc, donc le tonun, le nunc, l'instant, et le même, selon cela qu'il est. Et le nunc est autre, rationné, selon qu'il est pris au cette posterior. Saint Thomas. Je vous renvoie là pour ceux qui s'intéressent. C'est intéressant parce que vous comprenez que le tonun, le nunc, latin, la temps, il varie tout le temps. Alors, il est toujours le même. C'est vrai, il est toujours le même. L'instant est toujours le même. Il est toujours ce qui existe. Il est toujours ce qu'il est. Alors, il est autre. To einaioto, c'est le texte grec d'Aristote. C'est quand même le texte grec d'Aristote sur lequel il faut tout le temps revenir. Donc, il est autre dans le fait d'être, d'exister pour lui-même. Je dirais que l'instant est toujours différent dans son existence. Il est le même au pot N. Il est le même si on le prend selon sa raison propre. C'est toujours l'instant. Autrement dit, il joue toujours le même rôle. Il est toujours différent. Pourquoi ? Parce que l'instant pris dans son existence ne se sépare pas du prius et pas serius. C'est pas un temps séparé du passé et du présent. Le passé et le présent existent par l'instant et dans l'instant. Donc le to einein, l'exister de l'instant, n'est pas distinct du passé et du futur. C'est pour ça qu'il est toujours différent. Il passe. Tandis que si je le prends dans sa fonction propre d'instant, le o poten, il est toujours le même. Pas des instants différents. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le traduire pour Aristote. Saint Thomas, il retombe toujours sur ses pieds. Même quand il a une mauvaise traduction, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Parce que c'est très curieux ce qu'il dit. Moi, je dis juste l'inverse. En regardant le texte d'Aristote. Saint Thomas est dépendant de la traduction. Mais nous regardons Aristote. Après, on peut regarder saint Thomas, c'est intéressant. Mais on regarde d'abord Aristote. Donc, le temps est toujours... Tandis que l'instant a ces deux aspects. Si l'instant mesure le temps, et c'est en temps que antérius et posterius. To nun, maîtreille, ton chronon, donc, et l'instant mesure le temps, si mesure le temps, l'instant mesure le temps en tant que il s'identifie à l'antérieur, postérieur. C'est évident que l'instant ne peut mesurer le temps que dans la mesure où il existe dans le postérieur, l'antérieur, dans l'antérieur, le postérieur. On ne peut pas mesurer le temps en étant en dehors du temps. Il le mesure, et c'est sa propre fonction. Et en tant qu'il mesure, il est toujours le même. Il mesure. Mais en tant qu'il s'identifie au passé, au futur, à l'antérieur, le postérieur, il est toujours autre. Or, l'instant est en un sens le même, en un sens non. En tant qu'il varie d'un moment à l'autre, il est différent. Telle est l'essence de l'instant. Alors l'essence de l'instant, comme toujours, nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est l'être, c'est pas l'instant. Quant à son sujet, il est le même. Alors, le sujet traduit toujours le pote. Le poté. Il est le même. Vous voyez que il y a là quelque chose de très curieux. Et je crois que la traduction n'est pas bonne. C'est des bons hellénistes. Lors de demanderai d'essayer de faire ce petit effort, de redonner une bonne traduction de cela. C'est intéressant parce que l'instant joue un rôle capital dans la conception du temps chez Aristote. Parce que seul l'instant existe. Alors c'est intéressant de voir comment l'instant est à la fois toujours le même et comment l'instant est toujours différent. Parce que le temps passe. Le temps ne demeure pas. Il n'y a que l'éternité qui demeure. Alors, c'est intéressant de voir les deux aspects. En effet, comme on l'a dit, le mouvement obéit à la grandeur, et le temps au mouvement. Et semblablement, au point obéit le transporté, qui nous permet de connaître le mouvement, et l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Or, le transporté est le même comme sujet. C'est ou un point, ou une pierre, ou autre chose de ce genre. Mais autre par définition. Ainsi, les sophistes considèrent Coriscus au lycée comme différent de Coriscus sur l'agora. Et cela parce qu'il est tantôt ici, tantôt là. Or, au transporté correspond l'instant, comme le temps au mouvement. Car le transporté nous permet de connaître l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Le transporté, c'est ce qui est mu. Ce qui est mu, c'est le transporté. Or, ce qui est mu, c'est la seule réalité qui existe. C'est ce qui est mu. Le mouvement n'existe que dans le transporté. Car le transporté nous permet de connaître l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Or, en tant que l'antérieur et le postérieur sont nombres numérables, on a l'instant. De sorte que dans le domaine du temps, l'instant comme sujet est le même, car il est l'antérieur et le postérieur du mouvement. Mais il est différent quant à l'essence. Car c'est en tant que postérieur-antérieur, c'est en tant que l'antérieur et le postérieur est numérable qu'on a l'instant. Et ce sont là les éléments les plus connaissables, car le mouvement est connu par le mu, et le transport par le transporté, le mouvement local par ce qui est mu. En effet, le transporté est un être individuel et le mouvement, non. En un sens, donc, l'instant est toujours le même et en un autre, il n'est pas le même. Et en effet, c'est le cas du transporté. L'on voit de même que sans le temps, pas d'instant. Sans l'instant, pas de temps. De même, en effet, que le transport et le transport coexistent, ainsi coexistent le nombre du transporté et celui du transport. Le temps, en effet, est le nombre du transport et l'instant, de même que le transporté, est comme l'unité du nombre. Mais cette chose curieuse, hein, Aristote recherche, qu'est-ce qui existe dans le temps. Le temps est relatif au mouvement. Et qu'est-ce qui existe dans le temps? C'est le transporté. Et donc, seul l'instant mesure le transporté. Il seul existe. Il existe. Puisque l'instant est lié au transporté. C'est sûr. Le transporté ne vit que de l'instant. Puisque le passé, c'est le passé, et le futur, c'est le futur. Donc, vous voyez, c'est mettre le lien. Aristote essaie de mettre ici le lien entre ce qui est mu et l'instant. L'instant est relié à ce qui est mu. Donc, il est relié à l'acte de ce qui est mu. Oh, c'est l'acte ce qui émeut. Il relie par là. Et il nous permet de comprendre comment le temps nombre n'existe que dans l'intelligence de celui qui pense. Où il existe dans l'instant présent. Il n'existe pas autrement. Le temps comme nombre du mouvement existe dans celui qui pense le mouvement. Il existe fondamentalement grâce à ce qui émeut. Et là, nous retouchons l'instant. Alors, donc, en tant que limite, l'instant n'est pas le temps, mais est un accident. En tant qu'il nombre, il est nombre. Car les limites n'appartiennent qu'aux choses dont elles sont les limites. Au contraire, le nombre de ces chevaux, la dizaine, se trouve ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans l'intelligence. C'est évident, il n'épaisse pas dans les chevaux. Le nombre 10, ce que le pauvre dernier, qui serait le nombre 10, y porterait tous les autres. Donc le nombre 10 n'existe que dans l'intelligence, n'existe pas dans les chevaux. On voit donc que le temps est le nombre du mouvement, selon l'antérieur et le postérieur, et continu, car il appartient à un continu, à une grandeur. Alors, nous allons maintenant, à partir de là, chapitre 13, 12, continuer. Le nombre minimum, en un sens absolu, c'est la dyade. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une existence du nombre de par la relation, par le fait de la relation?
Quelle relation?
C'est-à-dire, par exemple, si vous avez... dans une structure.
C'est le nombré. Ce qui est compté, le nombré, c'est les chevaux. Je compte 10 chevaux. Les chevaux sont le nombré. Et le nombre n'existe que dans l'intelligence. Vous êtes d'accord? Puisque le nombre mesure. Et la mesure est dans l'intelligence. Les chevaux ne se nombrent pas par eux-mêmes. Je suis le dixième. Oui, dans une famille, les nombrés se nombrent. Je suis le dixième. On a compté. Et le dixième sait qu'il est le dixième. Donc à ce moment-là, il mesure les autres en étant le dixième. Il est donc nombré et mesure, mais par son intelligence. Donc ça revient au même. Quand on pose à quelqu'un l'exemple, et vous êtes le combien? Ah, le premier. Je suis le premier. Je suis l'aîné. À ce moment-là, il se situe lui-même par rapport à un nombre. On a nombré le nombre d'enfants. Il dit qu'il est premier. Donc il se situe lui-même. Il n'est pas uniquement nombré. Parce qu'il a l'intelligence de porter le nombre.
Et ça lui donne une caractéristique.
Ah, c'est évident. Puisqu'il est premier. Ou le dixième. Comment vous situez-vous dans une famille? Le dixième se situe autrement que le premier. C'est le Père Médieu qui disait ça dans une conférence en faveur des familles nombreuses. Alors il levait la main et dit, je suis le septième, je suis pour les familles nombreuses. C'est l'argument ad hominem. Parce que si évidemment il n'y avait pas eu sept, il n'aurait pas existé. Donc ça aurait été catastrophique et la face du monde aurait changé. C'est sûr. Le nombre minimum, en un sens absolu, c'est la dyade. Mais comme nombre concret, en un sens, il existe, en un autre, non. Par exemple, pour la ligne, le plus petit en quantité, c'est 2, ou une seule ligne. En grandeur, il n'y a pas de plus petit, car toute ligne se divise. Mais c'est la différence entre la quantité continue et la quantité discrète. Dans le nombre, il y a un plus petit. Dans le continu, il n'y a pas de plus petit. Et quand vous dites « je désire la plus petite part », c'est pas vrai. Parce que la plus petite part qui existe peut encore se diviser. Et donc quand on dit « je veux la plus petite part », on devrait diviser. Puis remettre la plus petite part. Pas autre chose que ça. Parce qu'on peut toujours diviser. Donc, je continue. Par suite, de même le temps. Il y a un plus petit temps, selon le nombre. Un ou deux temps. Selon la grandeur, il n'y en a pas. C'est simple. Or, l'on voit qu'on ne parle pas de la vitesse ni de la lenteur du temps. Mais on dit bien qu'il y a beaucoup ou peu de temps, qu'il est grand et court. En tant que continu, en effet, il est grand et court. En tant que nombre, il y en a beaucoup ou peu. Et s'il n'est ni rapide ni lent, en effet, il n'y a pas de nombre nombrant qui soit rapide ou lent. Donc Aristote essaie de caractériser, vous voyez, par les propriétés. Comme système, comme moyen de connaissance, c'est très intéressant. Ben, qu'est-ce qui qualifie le mouvement? Qu'est-ce qui qualifie le temps? Qu'est-ce qui qualifie l'instant? Par là, vous voyez tout de suite. Et certes, il est simultanément le même partout, le temps. Mais comme antérieur et postérieur, il n'est plus le même. Parce que l'antérieur et le postérieur, il n'est plus le même. Car le changement en tant que présent est un, mais différent en tant que passé et futur. N'oublions pas que le temps est nombre. Non comme moyen de nombrer, mais comme nombré. Or, celui-ci se produit dans l'antérieur et le postérieur, toujours différent. Car les instants sont différents. Au contraire, le nombre de 100 chevaux et celui de 100 hommes sont identiques et uniques. Ce sont les choses dont il est nombre qui diffèrent, les chevaux et les hommes. Il s'amuse. C'est très bien, c'est un grec qui s'amuse. C'est toujours intéressant de voir ça. De jouer sur le nombre en tant qu'il mesure, le nombre en tant qu'il est nombré. Oui, comme l'instant. Et si on regarde attentivement ça, on voit bien que ce qu'on disait tout à l'heure est juste et contraire à ce que on donne comme traduction. En outre, comme il peut y avoir un mouvement unique et identique par la périodicité, ainsi le temps, par exemple une année, un printemps, une automne. D'autre part, nous mesurons non seulement le mouvement par le temps, mais aussi le temps par le mouvement. Mais aussi le temps par le mouvement, parce qu'il se détermine réciproquement. Car le temps détermine le mouvement dont il est nombre, et le mouvement, le temps. Et nous parlons de beaucoup ou de peu de temps en le mesurant par le mouvement. De même, nous mesurons le nombre par le nombrable, le nombre des chevaux. Par exemple, par le cheval, unité. En effet, c'est par le nombre que nous connaissons la quantité des chevaux. Et réciproquement, c'est par le cheval, unité, grandeur et le temps au mouvement. Parce que ce sont des quantités et des quantités continues et divisibles. C'est en effet parce que la grandeur a ses caractères qu'il retombe sur le mouvement et par le mouvement sur le temps. Et nous mesurons la grandeur par le mouvement et le mouvement par la grandeur. Et puisque le temps est mesure du mouvement et du mouvement en train de se faire, et qu'il mesure le mouvement par la détermination d'un certain mouvement qui sera l'unité de mesure pour le total, de même que la coudée mesure la grandeur en déterminant une certaine grandeur qui est l'unité de mesure pour le tout. Ainsi pour le mouvement, être dans le temps, c'est être mesuré par le temps, en soi et dans son existence. Car simultanément, le temps mesure le mouvement et son essence. Et pour le mouvement, le fait d'être dans le temps et le fait d'être mesuré dans son existence. Donc vous voyez, je crois que ça, maintenant, peut-être... C'est suffisant comme lecture d'Aristote, il me semble. Ah, attendez, un peu plus loin. Mais ça qu'il faut le trouver, le lieu de l'instant. L'instant et la côte, chapitre 13. Donc, 157 pages dans la traduction. 222 à 10. L'instant et la continuité du temps, comme on l'a dit. Car il relie. Il relie le temps passé au futur, et d'une manière générale, il est la limite du temps. Oui, alors c'est ça qui est. Il est la limite du temps. Vous avez donc les deux limites.
Alors je reprends là, mais non quant à l'essence.
naissance, c'est Do-Einein. Et Do-Einein n'est pas l'essence, c'est le fait d'exister. Or, quant au sujet, la division et l'unification sont la même chose. Vous avez énosis et la diarrhée. La division. Esti de taoto, kat oto. Il le même quant à la division. La fonction de diviser et la fonction d'unifier. L'instant est toujours le même dans sa fonction d'unifier et de diviser. Il est péras. L'émettutant. Ça, il est toujours le même. Mais dans son exister, dans ton Do-Einein, pas dans son essence, dans son Do-Einein, il est toujours différent. Essayez maintenant. C'est plus facile, du reste, le temps que la question du lieu. Vous voyez ? La question du temps pour Aristote n'est pas mise directement en relation avec l'éternité du monde, des sphères célestes. Se définit dans ces trois aspects, le point de vue du passé, le point de vue du futur et le point de vue de l'instant. Et c'est l'intelligence qui, saisissant l'instant, saisit le passé et le futur. Et nombre le passé et le futur. Et ordonne le passé et le futur. Le propre du temps, c'est de mesurer le passé et le futur en leur donnant. Et le fait par l'instant présent. C'est l'instant qui existe et qui permet à l'intelligence d'unir le passé et le futur. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous calculez ce qui a été passé de la journée. Et ce qui est encore à venir. Et le jour où on ne sait plus, on commence à dire est-ce que je suis le matin, est-ce que je suis le soir. Ça prouve qu'on est très fatigué. Et vous avez ça chez les vieillards. Ils ne savent plus. Est-ce qu'ils sont le matin, est-ce qu'ils sont le soir. Quand ils sont enfermés dans leur chambre, quand on voit le soleil, on peut toujours se référer, mais autrement. Alors, ce qui est très intéressant, parce que je crois que c'est quand même très intéressant de voir ça, c'est qu'il y a deux ordres. L'ordre quant au lieu, l'ordre quant au temps. Et dans l'écriture, si je fais appel aux traditions religieuses, vous avez la sanctification du lieu. Et la sanctification du temps. Le lieu et le temps sont nos deux grands conditionnements. On est conditionné par le temps, on est conditionné par le lieu. Péras, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Aristote souligne Péras, son conditionnement, les limites, les deux grandes limites, le temps et le lieu. Alors, lequel de ces deux conditionnements est-il le plus radical en nous ? Autrement dit, est-ce que c'est l'ordre du temps ou est-ce que c'est l'ordre du lieu qui est quelque chose de plus fondamental en nous ? conditionné par le lieu, ça c'est sûr. Je voudrais être à tel endroit. Maintenant, je ne le suis pas. Je suis ici, conditionné par ce milieu. Et je voudrais être dans à telle heure, à tel endroit, et en même temps, je ne peux plus être dans l'autre endroit. Instant présent, existant. L'ordre du temps.
Est-ce qu'on pourrait dire que le lieu, c'est le conditionnement le plus fondamental du point de vue du corps?
Oui.
Par le corps.
Oui.
Mais le temps, le conditionnement le plus fondamental du côté de l'intelligence, l'esprit?
Du raisonnement.
Du raisonnement.
Oui. Parce que l'intelligence est au-dessus. L'intelligence n'est pas conditionnée par le temps. Oui. Le raisonnement, oui. Je dirais presque l'imagination. Oui. L'intelligence est liée au sensible. Une intelligence qui raisonne à partir du sensible. Alors là, elle est dans le temps. Mon intelligence, comme intelligence, est au-dessus du temps. L'intelligence contemplative est au-dessus du temps. L'intelligence dans le jugement d'existence est au-dessus du temps. Elle est liée à l'être présent. Mais elle n'est pas conditionnée par le temps. Oui.
Il y a un devenir dans l'intelligence, une croissance.
C'est évident. Mais elle est intelligente. Il y a la croissance de l'intelligence. Et donc, l'intelligence est plus que la croissance et le devenir. Primo cadit in intellectus. Ens. Vous vous souvenez? On peut même le chanter. Alors, si on peut même le chanter, c'est évident que quand on le chante, il est dans le devenir. D'accord? Vous voyez, vous êtes conditionné par ça. Tandis que si vous regardez Hens comme tel, il est au-dessus du devenir.
On a du mal à concevoir l'intelligence sans cette croissance.
Il y a des moments. Est-ce que l'être croit? Est-ce que l'être croit? Non. Il est. Et l'intelligence saisit ce qui est comme tel.
L'être ne croit pas, mais la compréhension que j'en ai croit.
C'est la vie de votre intelligence, c'est pas votre intelligence. C'est la compréhension de votre intelligence. Donc c'est votre vécu. Votre vécu croit. Et votre intelligence, comme tel, quand elle saisit l'être, c'est là où elle est intelligente. L'intelligence est au-dessus du conditionnement du temps. Est au-dessus du conditionnement du lieu. C'est ça que je dis, c'est l'intelligence pratique, pas l'intelligence spéculative. Mais c'est vrai que c'est les deux grands conditionnements, à ce point de vue-là, c'est très important, vous voyez. Et c'est très important de comprendre que c'est dans le monde physique. Je suis conditionné par mon corps. Pour le point de vue du lieu, c'est bien évident. Et je suis conditionné par mon corps, point de vue du temps. C'est pas mon âme spirituelle qui me conditionne par rapport au temps. Mais, attention, c'est mon âme spirituelle qui donne au temps sa forme. C'est l'intelligence qui nombre. Et donc le temps n'est temps formellement que lorsque mon intelligence nombre le passé et le futur. Si l'intelligence ne nombrait pas le passé et le futur, il n'y aurait pas de temps. Il existerait une succession des événements, mais au sens strict, il n'y aurait pas de temps. Le temps n'existe formellement que dans l'intelligence. Et que par l'intelligence. Il a fallu un homme pour que le temps existe formellement. le nombre soit attaché premièrement au temps. Je crois que le nombre est antérieur au temps, point de vue connaissance génétique. Parce qu'il faut bien que le lieu, génétiquement, est premier. Et que le temps, c'est déjà quelque chose d'assez élaboré. Mais le lieu qui me permet de nombrer, parce que je suis en face de réalités nombreuses, et une fois que j'ai nombré, je peux transporter le nombre à l'intérieur même de la succession du passé et du futur. C'est pour ça que c'est bien le lieu qui, au plan de vue générique, est premier.